France Musique. Musicopolis. L'Opéra de Katsu, Berlin, 1928. La guerre de 14-18 a été dure à Berlin, l'après-guerre aussi. L'empereur abdique après l'armistice de 1918. Le même mois a lieu la révolution de novembre. Deux mois plus tard, la révolution spartakiste est réprimée dans le sang, avec l'assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. La République de Weimar, proclamée en novembre 1918, est totalement instable. Ses premières années se caractérisent par une agitation sociale permanente, une crise économique majeure, une vague d'assassinats due à l'extrême droite et une crise monétaire épouvantable. Vous savez, quand il faut une brouette de billets pour aller acheter son pain.
Véronica, 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 elle insista, Véronica, elle insista, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Véronica, der Spargel will, ach du Véronica, die Welt ist grün, drum lass uns singen, die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da.
La situation économique et sociale de Berlin après-guerre est catastrophique. Mais pour les arts et les sciences, la ville est un creuset inépuisable de nouveautés et d'inventions. L'écrivain Elias Canetti écrit qu'à Berlin, la vie est incroyablement active et turbulente. Il y a quelque chose d'âpre et de mordant dans cette atmosphère qui excite et vivifie. Chaque jour, les Berlinois recommencent dans l'excitation et l'enthousiasme une course de vitesse contre le temps. L'université de Berlin, fondée un siècle plus tôt, est un véritable nid de savants. 10 d'entre eux obtiendront le prix Nobel entre 1918 et 1933. Les cinémas se multiplient, les cinéastes proposent une nouvelle vision du monde, avec un art d'avant-garde et néanmoins accessible. La radio émet dès 1923.
Meine blauen Röcke, meine Röcke, meine Röcke, sind die Jungens alle wie die Böcke, meck, meck. Wenn sie mich im heißen Heu nur wittern, nur wittern, nur wittern, dann beginnen alle gleich zu zittern und dann sind sie ganz weg. Doch eine steht dabei und lacht und gähnt, immer angelehnt, immer angelehnt, immer angelehnt an der Wand.
La vie musicale à Berlin est pleine de contrastes, avec ses 3 opéras, ses 50 théâtres et ses 300 cinémas. Avec d'un côté un public d'opéras et de concerts plutôt conservateurs, qui privilégie les programmes classiques et romantiques. D'un autre côté, des musiciens très ouverts comme Busoni, Schönberg, Hindemith, qui insufflent un grand vent de nouveauté, soit dans leur enseignement, soit dans les programmes qu'ils proposent. Et puis bien sûr, outre opéra et salles de concert, il y a à Berlin plus de 100 cabarets, des lieux où règne la plus grande liberté de ton.
Né
en 1900 à Dessau, Kurt Weill est venu étudier à Berlin dès 1918. Il n'a pas aimé l'enseignement du conservatoire, mais il a beaucoup apprécié celui de Busoni à l'Académie des Arts. En quelques années, il a composé une foule d'œuvres, symphonies, chœurs, musique de chambre, lieder et un concerto pour violon. Après avoir eu quelques créations à Berlin de ses œuvres de concert, Kurt Weill a commencé à collaborer avec le dramaturge expressionniste Georg Kaiser. En 1926, leur premier opéra, Der Protagonist, est représenté à Dresde avec grand succès. Du jour au lendemain, le nom de Weill est connu au-delà des petits cercles de spécialistes. Il devient le plus prometteur des jeunes compositeurs d'après-guerre. Le festival de Baden-Baden lui propose de composer un opéra en un acte pour la saison 1927. Il rencontre justement à cette époque le dramaturge Bertolt Brecht et il décide de mettre en musique quelques textes qui viennent tout juste d'être publiés sous le titre de Mahagoni Gesang, chanson de Mahagoni. Weill en tire ce qu'il appelle un Songspiel, une pièce en chanson. Dans les notes de programme, Weill écrit à la troisième personne. Dans ses œuvres les plus récentes, Weill se tourne dans la direction de tous ces artistes de toutes formes qui prédisent la liquidation des arts engendrés par la société établie. La courte pièce épique, Mahagoni, fait simplement un pas logique à partir du déclin inexorable des structures sociales existantes. Il s'adresse déjà à un public qui demande naïvement son plaisir au théâtre.
Oh, show us the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you. I tell you, I tell you, we must die.
Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old Papa and must have whiskey all the while.
Dans la chanson « Alabama Song », on entend la voix de Lotte Lenya, l'épouse de Kurt Weill, la seule de la distribution du Mahagoni de Baden-Baden à ne pas savoir lire la musique. On se doute bien que ce style musical, entendu dans un festival d'avant-garde au milieu de toute une série de pièces atonales, avait de quoi choquer. Le principal était que la première collaboration entre Kurt Weill et Bertolt Brecht s'était bien déroulée et qu'ils avaient envie de continuer à travailler ensemble. Début des années 20, à Londres, avait été repris The Beggar's Opera, l'opéra des gueux, une pièce mêlée de chansons datant du début du XVIIIe siècle. Pièce qui, à l'origine, se moquait à la fois du pouvoir en place, notamment du premier ministre Horace Walpole, et de l'opéra italien, qui connaissait ses plus grands succès à Londres avec la troupe de Handel. La reprise, en 1920, avait eu un immense succès et connu 1463 représentations en 3 ans. De quoi mettre la puce à l'oreille à de nombreux impresarios, directeurs de théâtre, éditeurs et dramaturges. C'est d'abord la collaboratrice de Brecht, Elisabeth Hauptmann, qui traduit le texte original de John Gay. Puis, Brecht va commencer à l'adapter, en intégrant aussi d'autres textes, de Kipling, de Villon. Et bien sûr, il demande à Weill de mettre en musique les chansons.
Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Flug.
C'est la voix de Bertolt Brecht qu'on entend là, enregistrée en 1929.
Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch nen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug.
Alors qu'il travaille, début 1928, à la musique pour l'adaptation du Beggar's Opera, qui ne s'appelle pas encore l'Opéra de Katsu, Kurt Weill écrit à l'éditeur Schott pour lui dire que ça n'est vraiment pas un opéra, mais plutôt une farce en musique, qui ne pourra pas être donnée dans les maisons d'opéra, mais plutôt dans des théâtres de pièces parlées, ou encore dans ceux où l'on donne habituellement les opérettes. Assez tôt, en 1928, Brecht a été approché par un impresario, acquéreur d'un nouveau théâtre et qui voudrait l'inaugurer avec une pièce originale. Brecht a proposé son travail en cours et la date du 31 août a été arrêtée pour la première.
Jean war der Rundherr, Jim war dabei
und George ist Sergeant geworden.
Doch die Armee, sie verkennen, wer sei
und marschiert hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Und es begegnete ihnen neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar.
Kurt Weill et Bertolt Brecht ont du mal à travailler à Berlin. On leur signale un petit coin tranquille sur la Riviera française. On réserve par câble à l'hôtellerie de la plage, plage des Lecs, à Saint-Cyr-sur-Mer, comme le raconte Lotte Lénia. Au 1er juin, Kurt et moi sommes partis en train, tandis que Brecht descendait en voiture avec Hélène Weigel et leur fils Stefan. Les deux hommes écrivaient et réécrivaient furieusement, nuit et jour, avec seulement parfois quelques baignades rapides. Je me rappelle Brecht pataugeant, pantalon retroussé, casquette sur la tête, cigare en bouche.
Siehst du den Mond über Soho?
Ich sehe ihn, Liebe. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebte?
Ich fühle es, Geliebte.
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen.
Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt's auch kein Schriftstück vom Standesamt und keine
Der Kelch
le travail sur l'opéra de Katsu est plus long que prévu. Fin juillet, ni la pièce ni la partition ne sont terminées. Les répétitions commencent le 10 août et rien n'est encore fixé. Même le titre n'est pas encore choisi. Après avoir eu un moment le titre anglais « Beggar's Opera », la pièce s'est appelée un moment « Die Ludenoper », l'opéra des souteneurs. C'est à peine quelques jours avant la première que le titre « L'opéra de Katsu » est choisi. Dans le même temps, beaucoup de scènes vont évoluer pour des raisons extérieures à la volonté artistique des auteurs. Jusqu'au jour même de la création, il y aura des coupures, des transformations, des interpolations. Par exemple, le rôle de Mrs. Coaxer a dû être carrément supprimé puisque l'actrice qui devait le tenir, Helen Weigel, l'épouse de Brecht, a eu une crise d'appendicite. C'est aussi très peu de temps avant le début des représentations que le premier morceau a été ajouté, celui qui est devenu le plus célèbre.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mekki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mekki-Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mekki-Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis. In der Menge Mekki-Messer, den man nichts fragt und er nicht weiß. Und die Minder der Gewitwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mekki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mekki, welches war dein Preis?
Il y a plusieurs histoires ou légendes qui circulent sur le pourquoi de ce morceau ajouté au dernier moment. Lotte Lenya raconte que le chanteur Harald Paulsen, très arrogant même pour un acteur, qui tenait le rôle de Mekki Messer, Mekki le surineur, voulait une chanson pour mettre son entrée en valeur. Auparavant, il avait déjà insisté pour avoir un costume très chic avec un nœud papillon bleu ciel qui ne correspondait en rien au personnage. Sans rien dire, Brecht se met au travail et le lendemain, il apporte à Weil le texte à mettre en musique. Weil écrit la musique dans la foulée. Il contacte aussitôt un joueur d'orgue de Barbarie qui va pouvoir accompagner la chanson. Pour que le public ne se laisse pas abuser par le beau costume de Paulsen, le texte est un long catalogue de tous les crimes commis par Mekki le surineur. Avant la première de l'opéra de Katsu, Kurt Weill insiste auprès de son éditeur pour que la place de la musique soit soulignée dans la publicité. « Je pense, écrit-il, que j'ai réussi à produire une bonne pièce et que plusieurs numéros ont les meilleures chances, au moins musicalement, de devenir populaires très rapidement. Au théâtre, les gens paraissent effrayés de l'efficacité de la musique et j'ai peur qu'on en parle dans la presse que comme d'une musique de scène, alors qu'avec ces 20 numéros, c'est bien plus que ça. Ami, Kurt Weill confie le fond de sa pensée. La musique a plus d'impact que les mots. Brecht le sait, et il sait que je le sais. Mais nous n'en parlons jamais. Si ça venait au jour, nous ne pourrions plus travailler ensemble. Brecht demande une soumission complète. Il ne l'obtient pas de moi, mais il sait que je suis bon et que je le comprends artistiquement, alors il prétend que je suis sous son charme. Je n'ai rien à faire pour créer cette impression. Il fait tout lui-même. Jusqu'au dernier moment, des ajustements sont apportés à la pièce. On doit remplacer l'actrice qui joue Polly parce qu'elle se rend au chevet de son mari mourant. La nouvelle ne veut pas chanter certains airs qui lui semblent amorales, etc., etc. Enfin, le 31 août 1928 arrive. Il y a peu de monde dans la salle et le public reste assez froid. Jusqu'à la chanson des canons où l'ambiance se réchauffe. Peu après, c'est l'explosion et le début de la Dreigroschen Fieber, la fièvre de 4 sous, qui va marquer la fin de la République de Weimar et qui consacrera l'opéra de 4 sous comme l'emblème du Berlin de 1928. De danse, d'après l'opéra de 4 sous de Kurt Weill et Bertolt Brecht, Marek Weber et son orchestre, enregistré en 1929. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Bruno Mourland pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.